Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Hey, you know what?
Diffusé tous les jours, de 10h à 11h, du lundi au vendredi. Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Vincent René à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle, qui, dans le journal des Nouveaux Chemins, à 10h50, recevra Noël Herp, auteur du journal d'un cinéphile paru chez Aléa. Suite ce jeudi d'une semaine sur Gaston Bachelard dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine qui est un bonheur pour nous, un triple bonheur, celui de lire la prose poétique de Bachelard, de parcourir les étapes de son épistémologie et enfin surtout d'entendre cette voix merveilleuse, imitable entre toutes, dont la rocaille donne envie de manger comme de penser. Après avoir reçu Jean-Philippe Pierron venu brosser un portrait fragmentaire de l'homme du tardif, Pascal Nouvel venu déjà vous parler d'épistémologie et la musicologue Marie-Pierre Lassus, avant d'accueillir Cynthia Fleury dont la pensée de l'imaginaire est peut-être ce que la poétique bachelardienne a produit de plus délicat, c'est aujourd'hui Didier Gilles que nous recevons. Didier Gilles que vous pouvez déjà entendre dans l'émission de lundi dernier de l'ami Stéphane Delis-Georges Continent Science, une excellente émission à podcaster. Didier Gilles donc, auteur entre autres d'un petit Bachelard et la culture scientifique paru aux presses universitaire de France dans la collection Philosophie, mais également d'un livre autour de Bachelard aux éditions Encre Marine et qui revient ce jeudi sur les simplissimes difficultés d'une philosophie des sciences qui donne parfois le sentiment d'être une science de la philosophie.
Suis-je un être nocturne ou un être qui voit encore la lumière ? Dans cette image de l'eau dormante, je réalise la synthèse du jour et de la nuit. Il me souvient, devant l'eau dormante, des rêves de mes plus profonds sommeils, des rêves où je suis une matière dissoute dans une eau qui donne le repos, qui apaise la vie, qui tranquillise les peines. Et puis, avez-vous entendu ce conseil de silence que donne une eau dormante ? Près d'elle, le dormeur éveillé n'écoute plus que le déplacement de ses songes. Il médite sur la vie, il médite sur la mort. Il est en état de méditation première. Il est placé à l'origine du songe et le songe l'éclaire sur la destinée de l'homme et du monde. C'est pourquoi nous pourrions dire, en notre langage de philosophe, qu'une image aussi totalisatrice des puissances de la nuit et des puissances du jour nous donne une conscience de songe.
Bonjour Didier Gilles.
Bonjour Raphaël.
Bonjour et bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Didier Gilles, faut-il distinguer, c'est une question qu'on pose de façon presque rituelle depuis le début de cette semaine sur Bachelard, faut-il distinguer Bachelard de lui-même, le poète et l'épistémologue, comme on distingue le jour de la nuit, ou bien le lire, l'entendre, le comprendre, comme une puissance totalisatrice, un mot qui lui est cher, une puissance totalisatrice dont les alternatives, apparemment exclusives, ne sont en réalité que des variations.
Je crois que c'est devant la Société française de philosophie en 1950 que Bachelard faisait état d'une nostalgie, presque d'un regret. Il disait, il était pourtant pas très très vieux encore, mais qu'il avait la nostalgie d'une anthropologie complète. Il voulait écrire l'anthropologie de l'homme des 24 heures. Et dans le même temps...
Qui ferait donc la synthèse qui ferait du diurne et du nocturne.
Absolument, voilà. De l'homme éveillé, voire suréveillé, comme il dit, et du dormeur éveillé. Maintenant, par ailleurs, il est clair aussi qu'il a toujours refusé énergiquement qu'on mélange les deux domaines. Par exemple, si on lui parlait de l'esthétique, des hypothèses mathématiques, de la beauté d'un théorème, il disait « bon, mais le théorème, avant d'être beau, il est vrai ». Sa beauté, c'est autre chose. Donc, il est difficile de trancher sur cette question. D'un côté, je crois qu'effectivement, c'est un homme complet. Lui, s'il n'a pas écrit l'anthropologie complète, en tout cas, il a été un homme complet qui a su agréablement alterner les jours et les nuits. Et dans le même temps, il a bâti toute son épistémologie sur une critique des images.
Alors, ne pas trancher, la réponse que vous faites est en elle-même d'ailleurs, hein, puis vous ne voulez pas trancher cette question, c'est de dire donc implicitement il ne faut pas trancher dans le système de Bachelard entre ces deux options, ces deux versions de Bachelard. Le fait est que la lecture n'est pas la même. On n'a pas le même sentiment quand on lit la formation de l'esprit scientifique ou quand on lit l'eau et les rêves. Ce sont quand même deux expériences. Je parle du point de vue du lecteur. Deux expériences résolument différentes, ouvertement différentes.
Elles sont résolument différentes, ouvertement différentes. En même temps, Bachelard est un véritable écrivain. Quand il fait de l'épistémologie, il reste un grand écrivain. Il a le goût de la formule, il sait jouer des figures de style, des figures de rhétorique. Il a une verve sans pareil. Donc, même quand il fait de l'épistémologie, ce n'est pas une épistémologie sèche, une épistémologie à la façon anglo-saxonne, où on s'interroge sur la logique des systèmes. C'est quelqu'un qui aime entrer dans le laboratoire, qui aime étudier la façon dont on travaille les phénomènes.
En somme, c'était plus fort que lui, la poésie, le bon temps de sa vie. Il en distillait, même dans les espaces où, apparemment, elle n'a pas sa place. La science, dit-il, dans son besoin d'achèvement, comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive sur un point particulier de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion. De sorte que l'opinion a en droit toujours tort. L'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance. Alors, Bachelard distingue la connaissance commune de la connaissance scientifique, on va en parler. Il y a peut-être donc malgré tout une solution de continuité entre l'opinion, chez Bachelard, entre l'opinion et la science. La solution de continuité n'est peut-être pas tant à chercher entre la poésie et la science qu'entre l'opinion et la science. Et donc, du coup, il faudrait y lire une invitation à ne pas tenir la poésie comme une variation de l'opinion ou de la simple impression.
Bien sûr que non, je crois qu'on peut même être très très clair sur ce point. Le drame de l'opinion, c'est que l'imagination y est malheureuse, hein. Qu'elle souffre des images, qu'elle en pâtit. Bachelard dit dans le matérialisme rationnel que son projet de psychanalyse chirurgicale des images, c'était un projet non pas pour se débarrasser des images, non pas pour les éliminer, non pas pour faire à la façon de Descartes une critique radicale de toute connaissance imaginative, c'était, disait-il, pour rendre l'imagination heureuse, pour la libérer précisément de... comment dire, la libérer de l'exigence de connaître. Les images, pour Bachelard, n'ont pas pour fonction de nous faire connaître. Elles ont, comme vous le disiez, je crois, lundi, elles ont pour fonction de nous faire entrer dans une expérience première du monde. Et il le dit d'ailleurs tout à l'heure, il parle d'une méditation première avec un curieux renversement de Descartes sur ce point. Car il est clair ici qu'il ne s'agit surtout pas d'une méditation d'un homme suréveillé, d'un surrationaliste, mais au contraire de quelqu'un qui songe, d'un dormeur éveillé.
Mais alors, vous parlez, on vient justement à la question que je souhaitais vous poser, que j'avais en tête en vous invitant au nouveau chemin de la connaissance. Quand on lit l'épistémologie de Bachelard, quand on commence, quand on s'aventure un peu, quand on fait ses premiers pas dans l'épistémologie de Bachelard, on tombe donc sur quelqu'un qui qui s'oppose résolument à l'opinion de façon très radicale, très claire. Et à cet égard, un élève de terminale, par exemple, qui lit un texte comme ça, il trouve des échos cartésiens. La radicalité de cette ambition, le refus cartésien, justement, de souscrire aux idées reçues, d'adhérer à ce qui n'est pas absolument clair et distinct, on a le sentiment chez Bachelard qu'il reconduit cette entreprise. Et pourtant, dans le petit livre Bachelard et la culture scientifique, qui est un vieux bouquin, qui a presque 15 ans maintenant, que vous aviez publié aux presses universitaires de France, dans ce livre, vous faites tout un chapitre sur le non-cartésianisme de Bachelard, sur le fait que Bachelard s'oppose à ceux qu'il appelle les chevaliers de la table rase. Est-ce que Bachelard est non-cartésien dans la mesure où il accorde toute sa chance, en poète qu'il est également, au régime de l'imagination dont Descartes se méfie ouvertement, ou bien est-ce qu'il est non cartésien dans la mesure où il n'introduit pas, paradoxalement et contrairement aux apparences, une rupture véritable entre les premières impressions et la construction scientifique ?
Je crois que le non-cartésianisme de Bachelard, il trouve son origine dans la pensée de Brunswick, c'est-à-dire de l'un de ses patrons de thèse, une grande figure de la philosophie française avant Bachelard, qui déjà avait fait en quelque sorte litière de l'aura du cartésianisme qu'il y avait dans la philosophie française, au moins jusqu'à Victor Cousin. Que reprochait Brunswick déjà à Descartes ? Eh bien, en somme, très simplement, que le rationalisme n'y était pas intégral. Qu'il y fallait un dieu qui garantit la vérité, un dieu vérace, comme on dit.
Un dieu qui, rappelons-le, qui ne peut pas être trompeur car il est parfait.
Voilà.
Et dont, par conséquent, la véracité garantit la vérité des idées claires et distinctes qui sont en moi. Ça, c'est le modèle cartésien qu'on trouve notamment dans les méditations métaphysiques.
Qui garantit donc du même coup aussi l'objectivité de mes connaissances, qui ne peut pas me tromper sur ce point. Brunswick, lui, il était fasciné par Spinoza. Il a vu justement dans la figure de Spinoza, au contraire, un moyen de mettre l'homme à l'égal de Dieu en termes de connaissances. Nous avons en commun avec Dieu deux attributs et donc notre pensée peut accéder à l'infini. Alors, il y a, je crois, déjà ça au départ, Brunswick et son souci d'un rationalisme plus intégral tel qu'on trouve chez Spinoza, comparé au rationalisme de Descartes. Mais il y a surtout la méthode cartésienne qui est contestée par Bachelard. La méthode cartésienne, vous le savez, vous l'avez rappelé, c'est une méthode par le doute radical qui consiste à tenir pour faux tout ce qui est tout simplement un tant soit peu douteux.
Et qui construit le sujet par sécession.
Voilà, exactement. Et qui, en quelque sorte, d'où l'expression « chevalier de la table rase », qui décide d'effacer en quelque sorte tout ce qui constitue les avatars de l'insertion de l'esprit dans la matière sensible. Bachelard, lui, au contraire, pense qu'on ne peut pas entièrement dépsychologiser comme ça, brutalement, un sujet, qu'il n'y a jamais de sujet pur.
De la même façon qu'il n'y a pas d'expérience dissociée du sujet qu'il observe, et qu'à cet égard, on ne peut pas parler d'expérience pure chez Bachelard.
Ah, ça, c'est une autre question.
Ah.
Est-ce qu'on peut parler d'une expérience pure ?
Une expérience séparable du sujet expérimentant.
Je ne crois pas non plus, effectivement. Je ne crois pas non plus du côté de sa poétique. Il me semble au contraire que le jeu est omniprésent. C'est d'ailleurs le seul moment où finalement Bachelard accepte de faire de la méditation, de faire du cogito. Le poète est celui qui parle à la millième personne du singulier quand même, du singulier. Donc il accède à un universel, mais il y accède du point de vue d'une subjectivité, assurément. Tout l'importance de la mémoire, de l'importance des souvenirs dans l'imaginaire bachelardien. Que seraient toutes ces images sans les souvenirs de son enfance Donc oui, pas d'expérience pure non plus, mais pas du point de vue de la science, en tout cas, de sujets connaissants totalement débarrassés de tout ce qui fait la connaissance commune, de tout ce qui fait la connaissance par image, de tout ce qui fait en quelque sorte, les souvenirs d'une existence.
Donc il faut lutter contre ce dont nous sommes mêlés. Il y a ici deux sens de l'abstraction. L'idée d'abord banale, cartésienne au fond, selon laquelle il faudrait faire abstraction du monde pour se constituer en sujet, un sujet pur qui ensuite reconstruirait le monde en cheminant, en marchant avec assurance en cette vie, d'idées claires et distinctes en idées claires et distinctes. Et l'abstraction bachelardienne, dont le paradoxe est qu'elle ne simplifie pas le monde, mais qu'elle le complexifie.
Oui, oui, oui. Alors, sur ce point, que dire ? Le Bachelard parle d'un conflit essentiel entre concept et image. Il pense qu'il y a toujours une lutte incessante, presque une violence. C'est pourquoi il parlait de psychanalyse chirurgicale, une psychanalyse qui va effectivement, en quelque sorte, nous arracher au monde des images, non pas définitivement, mais pour pouvoir bâtir à partir de leur correction, à partir de leur rectification, de leur critique, une autre représentation du réel.
Mais c'est-à-dire une autre représentation du réel ?
Je crois que fondamentalement, la philosophie des sciences chez Bachelard ne serait rien s'il n'y avait pas toute cette importante critique des images. Par exemple, même lorsqu'il s'agit d'ailleurs d'un imaginaire scientifique. On parle de la connaissance commune, il ne faudrait pas oublier que la connaissance commune, ce n'est pas seulement l'opinion, ce n'est pas la connaissance vulgaire, comme il dit aussi, ça peut être la connaissance scientifique constituée de façon dogmatique, dans un rationalisme un peu fermé, ce que Bachelard appelle la science de l'âme professorale. Et par conséquent, il y a aussi des images qui se constituent dans la science. Par exemple, l'image de l'atome. La première image de l'atome que la science a donnée, c'est une image qu'il s'agit encore de critiquer. Et Bachelard dit l'atome tel que nous le connaissons véritablement en microphysique, c'est une critique de toutes les images successives qu'on a eues de l'atome. Et en particulier de ce fameux schéma planétaire où on se représentait l'électron gravitant autour du noyau de l'atome comme une petite lune. Et de façon générale, s'agissant de la microphysique, toutes ces images où on se représente les particules comme des petits corps, comme des corpuscules dont on pourrait assigner très exactement le lieu dans un temps déterminé. Donc, il y a en permanence, voilà, ça ne peut jamais s'arrêter, il y a en permanence une critique des images, y compris à l'intérieur de la science constituée.
Alors on a opposé Bachelard à Descartes, il faut inscrire de cette manière Bachelard dans l'histoire de l'épistémologie, et un débat vieux comme le monde constitué pour un sujet qui remonte à Aristote, ou Platon presque d'ailleurs, peut-être plus encore Aristote, qui est donc la question de savoir dans quelle mesure la connaissance scientifique est un prolongement de la connaissance commune. Chez Aristote, c'est le cas.
Oui.
C'est le cas. On va par induction du particulier au général. J'ai presque envie de penser, de vous proposer l'idée selon laquelle ce serait également le cas en un sens chez Spinoza, qui fait de la connaissance du premier genre un début de vérité, un commencement de vérité, c'est-à-dire quelque chose qu'on affine, une vérité mutilée, confuse, partielle, mais qu'il s'agit d'affiner. Mais Spinoza, qui ne peut pas penser la négativité, s'interdit de la penser, en tout cas qui n'y trouve aucun corrélat ontologique, se refuse de récuser les choses dans leur totalité. Alors, est-ce qu'on peut donc penser avec Bachelard une rupture, cette fois-ci, dans l'histoire des idées, dans la mesure où son discontinuisme entre l'opinion et la connaissance scientifique viendrait rompre avec l'idée assez noble et intuitivement, spontanément familière ou agréable, selon laquelle connaissance commune engendre connaissance scientifique
Et effectivement, là, il y a là une singularité du bachelardisme. La rupture est totale. C'est-à-dire qu'il faut recommencer la connaissance si on veut faire de la science. On ne peut pas partir de la connaissance commune. En aucun cas, elle ne peut servir de point de départ. Le premier acte fondateur de la science, c'est un acte de rupture avec la connaissance commune. Il est radical. Ça veut dire qu'il faut que la science puisse substituer son propre sa propre base, hein, comme nouveau point de départ de la connaissance. Et pour ce faire, bien entendu...
Et il n'est pas là en position de chevalier de la table rase.
Non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour substituer cette nouvelle base, il faut faire la critique des images. Voilà. Et cette critique ne doit pas être une critique globale, ça doit être une critique circonspecte. Ça ne doit pas être un doute radical comme chez Descartes, ça doit être un doute beaucoup plus précis. Par conséquent, non, il ne s'érige pas en sujet pur, hein, mais il pose que le travail de dépsychologisation est infini. Voilà. Donc le recommencement de la science, il est infini.
De sorte que Bachelard peut s'en prendre à ce qu'il appelle l'extension abusive des images familières. Mmh. Ça se trouve dans la formation de l'esprit scientifique. C'est un texte que Georges Claes a enregistré pour nous et on va l'entendre ici. On va entendre Georges Claes lisant du Bachelard qui nous parle lui-même de l'éponge comme exemple de ce qu'il appelle un obstacle verbal. Écoutez.
Nous allons prendre le pauvre mot d'éponge et nous allons voir qu'il permet d'exprimer les phénomènes les plus variés. Ces phénomènes, on les exprime, on croit donc les expliquer. On les reconnaît, on croit donc les connaître. Dans les phénomènes désignés par le mot éponge, l'esprit n'est cependant pas la dupe d'une puissance substantielle. La fonction de l'éponge est d'une évidence claire et distincte, à tel point qu'on ne sent pas le besoin de l'expliquer. En expliquant des phénomènes par le mot « éponge », on n'aura donc pas l'impression de verser dans un substantialisme obscur. On n'aura pas davantage l'impression qu'on fait des théories, puisque cette fonction est toute expérimentale. À l'éponge, correspondons à un « Denkmittel » de l'empirisme naïf. Ainsi, Franklin écrit « La matière commune est une espèce d'éponge pour le fluide électrique. Une éponge ne recevrait pas l'eau si les parties de l'eau n'étaient plus petites que les pores de l'éponge. » Elle ne la recevrait que bien lentement s'il n'y avait pas une attraction mutuelle entre ses parties et les parties de l'éponge. Celle-ci s'en imbiberait plus promptement si l'attraction réciproque entre les parties de l'eau n'y mettait pas obstacle, en ce qu'il doit y avoir quelques forces employées pour les séparer. Enfin, l'imbibition serait très rapide si, au lieu d'attraction, il y avait entre les parties de l'eau une répulsion mutuelle qui concourut avec l'attraction de l'éponge. C'est précisément le cas où se trouvent la matière électrique et la matière commune. Tous ces détails, toutes ces suppositions, tous ces dessins pleins de repentir nous montrent assez clairement que Franklin essaie d'appliquer les expériences électriques sur l'expérience primitive de l'éponge. Mais Franklin ne pense que sur le plan de l'éponge. L'éponge est pour lui une véritable catégorie empirique. Peut-être en sa jeunesse s'était-il émerveillé devant ce simple objet, c'est assez fréquent. J'ai souvent surpris des enfants très intéressés par un buvard qui boit une tasse.
Didier Gilles, ce qui est intéressant dans ce texte, me semble-t-il, c'est que le substantialisme spontané, le fait de tenir les éléments pour des substances qui recevraient au gré de l'existence des accidents, comme autant de prédicats, cette représentation erronée des choses, substantielle des choses, correspond paradoxalement, alors qu'ouvertement elle s'y oppose, à un empirisme, à une pratique, à un besoin. Nous avons besoin de l'éponge, donc nous représentons l'éponge comme une totalité, en un sens close, sur elle-même. Il y a un engendrement des erreurs par elle-même, dans cette généalogie que Bachelard propose des illusions de l'esprit scientifique.
Alors ce substantialisme, sa critique vise bien sûr Aristote, hein, en tout premier lieu, d'où votre référence au couplage substance-attribut, substance-accident. Mais plus généralement, ça vise à une sorte de matérialisme naïf, de matérialisme spontané. Nous croyons d'emblée que les choses existent hors de nous, indépendamment de nous, et alors même que nous ne faisons que projeter en elles nos besoins, traduire, comme il dit, il disait dans le texte précédent, traduire nos besoins en connaissance.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est dans la mesure où ce qu'on connaît des choses, ou ce qu'on croit connaître des choses, dépend du besoin que nous en avons, c'est dans la mesure où nous croyons cela que nous croyons également que les choses existent indépendamment de nous.
Oui, Oui, c'est très paradoxal finalement.
De là, la phrase d'Éluard, on en a déjà parlé en exergue de la psychanalyse du feu. Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis.
Voilà, exactement. Il convient de s'affranchir de cette douce illusion. En même temps, il est remarquable aussi que quand Bachelard s'attaque à l'image de l'éponge, il vise aussi justement cette part de psychologisme résiduel qu'il y a dans des grandes métaphysiques, comme celle de Descartes. À propos de Descartes, Bachelard dit qu'il y a une métaphysique de l'éponge chez Descartes aussi. Donc même Descartes, qui prétend s'être débarrassé définitivement des images, en vérité, il les emploie comme des moyens de connaître. Et du coup, il vicie complètement la pureté même de la connaissance qu'il vise.
Alors, on va s'amuser à comparer un texte scientifique de Bachelard avec un texte poétique, non pas de Bachelard, mais de Ponge lui-même. Donc, on va de l'éponge à Ponge, lequel Ponge, d'ailleurs, justement, parle de l'éponge qu'il compare à l'orange. Et il serait intéressant d'avoir votre sentiment, Didier Gilles, sur cette différence d'approche ou d'appréhension que le poète propose devant un tel spectacle, un tel phénomène. Écoutez.
Comme dans l'éponge, il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais. Car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d'ambre s'est répandu accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l'oppression ? L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent, d'eau propre ou d'eau sale, selon. Cette gymnastique est ignoble. L'orange a meilleur goût, mais elle est trop passive. Et ce sacrifice odorant, c'est faire à l'oppresseur trop bon compte, vraiment.
Didier Gilles est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans le cadre d'une semaine sur Bachelard, c'est de nouveau de l'épistémologie de Bachelard que nous parlons aujourd'hui. Didier Gilles, que vous inspire cette comparaison, ces deux façons de décrire un objet, en l'occurrence une éponge et une orange, cette critique que propose Bachelard de la substance éponge et cette façon qu'a Éluard Ponge de plonger, c'est l'orange qui fait penser à Éluard, de plonger au cœur d'une matière poétique.
Là, on a même plus que du substantialisme chez Ponge, on a une sorte de vitalisme, l'éponge est comme un muscle. Qui aspire de l'air ou de l'eau, qui la rejette comme une sorte de poumon, en quelque sorte, qui respire et inspire. Je crois qu'assurément, Ponge fait... l'imagination de Ponge est heureuse, dirait Bachelard, et c'est très bien ainsi, pourvu qu'il ne cherche pas par là à nous faire comprendre ce que c'est véritablement qu'une éponge ou qu'une orange.
Ici, on en vient à la question de l'expérience, sur laquelle il faut qu'on s'arrête un instant. Est-ce que finalement, cette discontinuité bachelardienne entre l'opinion et une connaissance rigoureuse, une connaissance scientifique, ne vient pas du fait que la science est d'abord une pratique expérimentale et que l'expérience, contrairement à ce que son nom indique, d'ailleurs il faudrait plutôt dire expérimentation qu'expérience peut-être, l'expérience ou l'expérimentation construit son objet plus qu'elle ne le décrit.
Oui, il y a souvent une confusion sur ce point parce qu'on emploie souvent le même mot. On parle d'expérience pour parler de l'expérience première, de l'expérience familière, de l'expérience usuelle. Et en même temps, on parle d'expérience scientifique. Et effectivement, il vaudrait mieux parler d'expérimentation pour plusieurs raisons. La première, c'est que, encore une fois, l'une n'est pas le prolongement de l'autre. Puisque la première est entièrement naturelle, nous percevons dans des conditions naturelles des objets qui nous sont naturellement donnés. Et alors que l'expérimentation scientifique, elle produit un phénomène dans des conditions qui sont tout à fait artificielles. Bien souvent, d'ailleurs, ça permet de donner à voir des choses que jamais nous ne pourrions voir dans les conditions naturelles de l'expérience, justement. Et c'est ça qui intéresse au plus haut point
Bachelard.
C'est
en cela que beaucoup d'abstraction nous ramène à la réalité, alors qu'un peu d'abstraction nous en éloigne.
Exactement, oui, exactement. Parce que le beaucoup d'abstraction dans l'expérimentation, c'est bon, ce que Bachelard appelle des théories qui se matérialisent, hein, qui se traduisent en montage technique. Toutes les techniques indirectes de détection de certaines particules, de certains phénomènes. Tout cela suppose tout un appareillage théorique, tout un cogito d'appareil, dit Bachelard. Et puis, ça suppose ensuite, bien sûr, toute une technique. On oublie souvent que c'est un aspect très important dans la pensée de Bachelard, qu'en aucun cas l'expérience scientifique n'est une expérience qui peut se dérouler dans la nature. Ce n'est pas une leçon de choses, une leçon de science. Hein. Et Bachelard n'emploie jamais justement l'idée que... Enfin, n'emploie jamais l'expression « science de la nature hein. ». Pour lui, la science est toujours la science de phénomènes artificiels. D'où le néologisme qu'il avait inventé. Hein, pour parler du phénomène scientifique, il parlait de phénoménotechnique. Voilà. Ce qui dit très clairement qu'il y faut tout un art de produire des phénomènes qui autrement ne se produiraient pas.
Au fond, le phénomène n'est pas le donné qui apparaît, c'est le construit, produit par l'activité scientifique, qui pourtant, en construisant le phénomène, ne s'éloigne pas du réel, qui est l'objet d'une définition ultime. On comprend ici de quelle manière la réalité n'est pas le point de départ de la réflexion de Bachelard, voilà. Mais son point d'aboutissement.
Son point d'aboutissement, absolument.
Et qu'il entretient un rapport aporétique, enfin, pas aporétique, mais asymptotique avec la réalité. La réalité est toujours au bout du bout du bout du bout d'une expérience qui, oui, en elle-même invite à...
Et en même temps, il n'y renonce jamais à cet horizon réaliste, en quelque sorte. Hein.
Parce qu'il critique le réalisme.
Oui, il le critique, mais comme réalisme naïf, comme philosophie première. Je crois que fondamentalement, quand il parle plus tard du matérialisme technique, il réintroduit l'idée, en somme, tout de même, que la science vise un réel et produit une réalité, ou une connaissance, du moins, de cette réalité.
Est-ce qu'on peut parler à cet égard du réalisme de Bachelard comme de sa philosophie dernière? Non pas la dernière des philosophies, mais son ultime philosophie, le point d'aboutissement de sa pensée.
Oui, à condition de préciser encore une fois, réalisme technique ou matérialisme technique, réalisme de l'artifice, réalisme qui est très indirect, voilà, qui n'est jamais que le point d'aboutissement d'un long trajet, qui suppose beaucoup de travail théorique, mathématique, qui sont des matrices d'expérimentation, hein, qui permettent de concevoir du possible, hein, et ensuite tout un travail de construction du montage expérimental.
Hein. C'est en cela que le réel et l'élément sont des termes synonymes chez Bachelard, c'est-à-dire au sens où la notion d'élément chez Bachelard, c'est ce qu'on rencontre quand on a banni du monde les objets, les formes, quand on a renoncé à entretenir avec lui une relation utilitaire.
Alors là, s'agissant des éléments, enfin les quatre éléments en particulier qui le fascinaient tant, il est remarquable que, bon, tant que, en somme, la philosophie s'intéresse aux éléments avant Platon, Thalès, Pythagore, etc., bon, après tout, la philosophie lui paraît accomplir une œuvre tout à fait satisfaisante. C'est seulement à partir du moment où ces éléments entrent dans une alchimie, où on prétend en faire les bases de la pratique de la chimie qui n'était pas encore née, hein, pendant tout le Moyen-Âge et même jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'il y a des exemples dans la formation de l'esprit scientifique de ce substantialisme des quatre éléments encore à l'œuvre dans une science qui ne parvient pas à se débarrasser de ses réquisites alchimiques. Donc, s'agissant de ces éléments, je crois qu'il, là encore une fois, il veut pouvoir en parler d'une manière qui n'interfère pas avec l'exigence de scientificité. Il veut pouvoir en parler d'une manière qui soit non pas malheureuse, mais heureuse. Maintenant, est-ce que c'est ça la réalité pour lui? Je crois au contraire que ces éléments sont des éléments par lesquels le sujet est extrêmement créateur, hein, et par conséquent, on vous le disait, je crois aussi lundi, il s'agit pas il s'agit de déformer des images. Hein, c'est ça la production imaginative. Hein. Elle ne reproduit rien, elle déforme sans cesse. Et je crois que ces éléments sont plutôt des matériaux pour l'imagination qu'il y a toujours à déformer.
Mais cette déformation des éléments, ou cette déformation poétique, cette imagination créatrice chez Bachelard, est en elle-même aussi un remède à la tentation chosiste, à la tentation de réifier, de substantialiser les choses, puisque c'est une façon d'introduire de la mobilité, du dynamisme dans le monde et dans les éléments. Est-ce que, de ce point de vue, il n'y a pas une sorte de parallélisme des intentions entre une poétique essentiellement dynamique et une approche scientifique du monde qui récuse tout ce qui substantifie ou essentialise l'objet à connaître?
Oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, on pourrait donc aller jusqu'à dire qu'il a bien été l'homme des 24 heures. Il a bien réussi effectivement à faire sur deux plans parallèles, mais toujours distincts, un travail du même ordre. En somme, oui, Bachelard refuse aussi bien pour l'imagination que pour la conceptualisation scientifique l'idée qu'on puisse partir de choses qui existent et qui substantiellement en dehors de nous et qui s'imposeraient à nous. D'un côté, donc, il n'y a pas des choses, mais des éléments qu'on peut déformer. Et de l'autre, il y a
des images
que l'on peut aussi travailler et de façon à en dégager des concepts.
Quelle est l'influence de la théorie de la relativité sur la pensée de Bachelard? Est-ce que cette... Parce que, à vous entendre, quand on sait à peine de quoi il s'agit quand on parle de théorie de la relativité, c'est-à-dire quand on n'a pas cette culture scientifique qui permet tout simplement d'en expliquer les éléments, justement, je mets ici le mot entre guillemets, on se dit intuitivement comme ça que toute l'épistémologie de Bachelard est véritablement ancrée dans une époque dont il dit qu'en une décade il s'y passe plus de choses qu'en des siècles auparavant, et qu'elle est tout entière, que son épistémologie est tout entière gouvernée, orientée par le tremblement, le tremblé intuitif introduit par la théorie de la relativité.
Alors, la relativité, pour Bachelard, hein, c'est même l'acte, la date de naissance très précise, 1905, hein, pour la relativité restreinte du moins, de ce qu'il considère comme étant une véritable révolution spirituelle. Hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement une manière pour la science de recommencer, hein, selon sa philosophie du roi, c'est aussi pour l'esprit tout entier, une façon de se renouveler intégralement. Donc c'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Bien parce que, en somme, pour lui, la relativité, c'est le moment d'une grande synthèse et d'une synthèse transformante. Contrairement à ce que pensent les anglo-saxons sur ce point, Bachelard n'a jamais prétendu que la relativité donnait tort à Newton. Il pense au contraire que, en somme,
Donc il n'y avait pas de rupture entre Newton et Einstein ?
Alors. Moi, je ne pense pas qu'il y ait chez Bachelard l'idée d'une rupture au sens de la rupture épistémologique.
Je sens que quelques bachelardiens orthodoxes vont vous tirer dessus après cette émission, Didier Gilles.
Il n'a pas fallu, à mon avis, pour que la science einsteinienne advienne, qu'elle rompe avec Newton. On ne lit ça nulle part chez Bachelard. Ce qu'on lit, au contraire, c'est qu'il faut, pour que la relativité advienne, qu'elle soit capable et de rendre compte des phénomènes dont rendait compte le newtonianisme, disons, à l'échelle astronomique du système solaire, et d'autres phénomènes qui, précisément, peuvent être observés à proximité d'étoiles très lointaines, où à ce moment-là, effectivement, la masse va courber l'espace et où il va falloir donc complètement réviser les bases. Donc il y a assurément un renouvellement de l'esprit, mais par élargissement. Chez Bachelard, la dialectique, vous le disiez, je crois, aussi récemment, la dialectique, c'est jamais une dialectique
éliminante,
qui élimine, qui prétend dépasser. On ne peut pas dire non plus que la relativité einsteinienne soit un dépassement de la science newtonienne. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'effectivement, il y a une amplification, il y a un mouvement de synthèse transformante, et que la relativité associe le supérieur à la philosophie de Newton, qu'elle l'inclut.
On a dit souvent qu'une hypothèse scientifique qui ne peut se heurter à aucune contradiction n'est pas loin d'être une hypothèse inutile. De même, une expérience qui ne rectifie aucune erreur, qui est platement vraie, sans débat, à quoi sert-elle ? Une expérience scientifique est alors une expérience qui contredit l'expérience commune. D'ailleurs, l'expérience immédiate et usuelle garde toujours une sorte de caractère tautologique. Elle se développe dans le règne des mots et des définitions. Elle manque précisément de cette perspective d'erreur rectifiée qui caractérise, à notre avis, la pensée scientifique. Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s'agit pas de considérer des obstacles externes, comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain. C'est dans l'acte même de connaître, intimement, qu'apparaissent par une sorte de nécessité fonctionnelle des lenteurs et des troubles. C'est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de régression. C'est là que nous décèlerons des causes d'inertie que nous appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n'est jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. Deux questions, Didier Gilles. D'abord, c'est intimement que Bachelard repère des obstacles épistémologiques. Donc on est quand même, malgré tout, à l'intérieur de la démarche scientifique, dans un registre qui est celui de l'intimité. Le repérage des obstacles épistémologiques en passe par une psychologie de l'esprit scientifique. De sorte que, là encore, on peut, en un sens, poétiser la démarche scientifique de Bachelard, en tout cas, en revenir à cette intimité qui nous intime précisément l'ordre de nous débarrasser de ce qu'elle mélange d'elle-même. Et deuxième chose, une question, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser ». Comment est-ce qu'il peut dire ça ?
Alors c'est une formulation qui est la marque de ce qu'il appelle le rationalisme récurrent. En droit, il le dit dans le texte que vous lisiez tout à l'heure, en droit l'opinion a toujours tort. Encore faut-il ensuite avérer cette certitude. Et donc il faut rétrospectivement pouvoir montrer qu'on s'est trompé. D'où l'importance chez Bachelard de l'enseignement. Cette psychologie, c'est pas une psychologie intime, c'est pas une psychologie qui introspective, c'est une psychologie dans l'intersubjectivité. Et cette intersubjectivité, c'est celle de l'école, c'est celle de l'enseignant et de l'enseigné. En somme, on doit pouvoir à deux, et seulement à deux, en quelque sorte, comprendre et en quelque sorte nous pardonner nos erreurs mutuelles. Et de cette compréhension de nos erreurs mutuelles, on doit pouvoir surgir l'événement rationnel, l'événement de la raison.
Mais comment le pédagogue Bachelard, qui se promène avec ses élèves, qui aime à marcher en compagnie de ses élèves, on l'imagine très bien d'ailleurs en train de parler à ses élèves en marchant, peut-il allier cette critique radicale de la connaissance commune, des perceptions sensibles, de toutes ces vessies qu'on prend pour des lanternes, peut-il allier cela au plaisir charnel, sensuel, de vivre, d'éprouver les odeurs, les sons, les couleurs, la couleur du ciel, la couleur de l'aube, l'homophonie d'une rivière et d'un matin. Comment fait-il pour concilier les deux ?
En tout cas, pour lui, il avait d'ailleurs polémiqué avec Bergson sur ce point, qui reprochait au rationalisme d'être un rationalisme sec, gai comme une porte de prison. Il dit, mais pas du tout. Moi, mon rationalisme, il n'est pas sec, il n'est pas triste. Il y a beaucoup de spinozisme, hein, d'ailleurs, de ce point de vue-là, chez Bachelard, en ceci qu'il y a l'idée d'une puissance de pensée qui est joyeuse. Hein. Le refoulement des images, ce n'est pas un refoulement pessimiste, un peu, disons, comme dans le freudisme, c'est un refoulement qu'il appelle d'ailleurs positif, et c'est un refoulement qui est source de joie, qui permet une véritable sublimation en vérité. Donc on ne renonce à rien du pouvoir d'évocation des images, simplement on libère notre imagination de cette contrainte qui pèse sur elle d'en faire une puissance de connaître.
Revenons sur ce rapport entre Bachelard et Bergson, qui ont bien des points communs, en un sens, et qui, en un autre sens, se séparent résolument sur la question justement de la continuité ou de la discontinuité. Bergson est le penseur de la continuation non divisible des choses. C'est le fond de l'existence, c'est le fond sur lequel se déploient les illusions utilitaires de la vie, le fait que nous ayons besoin de choisir, de disséquer le monde pour supporter d'y vivre, par exemple. Mais au fond, il y a chez Bergson, la toile de fond chez Bergson, c'est la continuité. Ce qui fait de Bergson, à sa manière, le penseur de cette chose incompréhensible qui est le passage insensible d'un état à un autre. C'est-à-dire un saut qualitatif qui s'opère d'un état à un autre et qui pourtant ne correspond à aucune discontinuité, à aucune rupture. Est-ce que Bachelard ne parvient pas mieux que Bergson, en ce sens, à penser cette rupture qui nous fait passer d'un état à un autre, ce saut qualitatif, dans la mesure où Bachelard accepte la notion de discontinuité au principe même de sa connaissance.
Mais là encore, ça suppose, comme il le montre dans l'ouvrage de 1936, je crois, La dialectique de la durée, ça suppose de distinguer, encore une fois, entre un temps qui nous serait donné et un temps qui est construit. Pour Bachelard, le temps n'est pas donné, il est toujours construit en quelque sorte, que ce soit le temps de l'imagination ou que ce soit le temps de la science. Et il parle même d'une chronotechnique du temps suspendu à propos de la science. Donc d'un seul coup, il s'agit bien d'opérer effectivement une véritable rupture avec la durée immédiate, avec les données immédiates de la conscience.
Hein. Ça, c'est le premier livre de Bergson, ouais. C'est sa thèse, ouais, l'essai sur les données immédiates, ouais, de la conscience.
Alors, chez Bachelard, c'est...
Bachelard n'est pas un philosophe de l'immédiat.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un philosophe du discursif, de la médiation, et d'une discursivité qui aussi bien affecte les concepts que les images. De sorte qu'effectivement, là aussi, il est tout à fait complet. Son anthropologie est complète, parce qu'après tout, il n'a pas prétendu que l'imagination, elle pouvait s'inscrire dans la durée continue de Bergson, dans la durée pure.
En même temps, quand Pasteur découvre le vaccin contre la rage, c'est parce qu'il a laissé fermenter les choses. Ça n'est pas une pure construction. C'est-à-dire que dans le même temps, hein, cette discontinuité bachelardienne s'inscrit dans une continuité expérimentale. Est-ce que c'est Pasteur qui disait qu'il fallait laisser grouiller les microbes,
oui,
Gilles?
Alors, faut pas oublier une chose quand même, c'est que Bachelard, c'est un philosophe pas de toutes les sciences. Mais essentiellement de la physique et de la chimie. Il s'est très peu prononcé sur la biologie. Quand Guilhem, plus tard, va aborder cette région du savoir.
En bachelardien ?
En bachelardien, oui, certes, mais aussi en bergsonien. Quand Guilhem est quand même un grand lecteur de Bergson. Et de ce point de vue-là, je crois que la philosophie de Bergson, elle est quand même plus à même que celle de Bachelard de comprendre la biologie.
Mais cette idée de microbe qu'il faut laisser grouiller...
Du point de vue de la rigueur, effectivement, que Bachelard nous impose par ailleurs en physique ou en chimie, ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos de l'éponge, on se dit que, bien évidemment, il y a là une tentation à laquelle l'esprit scientifique doit se refuser.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que je ne crois pas que l'expérience de Pasteur soit pour Bachelard un exemple, est une valeur exemplaire en termes d'expérience scientifique.
La boulangère éternue, j'ai peur des microbes. Je jette mon pain dans la rue. À chaque fois qu'on tousse à côté de moi, j'ai peur d'attraper le microbe du sida. Et quand je m'agrippe à la barre en métal du bus, je pense à toutes ces mains sales qui se sont grattées l'anus, à cette charmante tête blonde assise en face de moi, sur le point de se ronger les ongles. Je crie, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. J'ai peur des microbes, j'ai peur des microbes. Un recommandé du facteur, plein de microbes. À mon dernier relevé de compteur, j'ai pris de bonnes résolutions. J'attraperai plus de microbes. J'invite plus personne dans ma maison. L'idée qu'un poil sur ma faïence.
Voilà, c'était téléphoné, évidemment. Hein. J'ai peur des microbes. C'est une trouvaille de François Connac. C'est Charles. Et c'est assez drôle, je dois dire. Merci Didier Gilles. Je signale encore une fois ces deux livres. Et je renvoie d'ailleurs nos auditeurs au site internet des Nouveaux Chemins pour la suite de votre bibliographie. Bachelard et la culture scientifique, ça c'est au PUF dans la collection Philosophie, petite collection formidable dont les livres ne datent jamais, ou rarement en tout cas. Et autour de Bachelard, Esprit et matière, un siècle français de philosophie des sciences, avec une préface de François Dagonier. Ça, c'est chez Encre Marine. Vive Encre Marine.
Brosser les dents, je sais bien qu'au dehors on me traite de dément, mais demain ils seront tous morts et je serai le seul survivant de tous ces microbes, de tous ces microbes. À la salle de musculation, parmi les gladiators, Monsieur Propre, c'est mon surnom, ils ont fait rentrer des Terminators. Des étrangers, ils sont fous, demain on est tous morts. On dirait qu'ils ont jamais entendu parler ni de la grippe aviaire, ni du sarin.
On vous retrouve deux fois sur Internet, Didier Gilles, sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance, sur le site également de Continent Science, dont on peut télécharger l'émission toute la semaine, l'émission de Stéphane Delisgeorges, à laquelle vous participiez lundi dernier.
De tous leurs microbes, un esprit sain dans un corps sain, ouais c'est moi, et j'ai les mains toujours propres aux élections.
Il faudrait filmer Vincent René et François Connac, hilar en régie, à l'écoute de cette chanson, et ce sera pour une autre fois. Pour l'heure, on retrouve Adèle Van Rett et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
C'est du journal d'un cinéphile que vous allez nous parler aujourd'hui.
Et oui, bonjour à tous. On passe de l'épistémologie à la cinéphilie, l'art d'aimer le cinéma jusqu'à en faire un écran ou un prisme à partir duquel on comprend et on pense notre propre vie. Aimer des films, des cinéastes, des moments de l'histoire du cinéma et déchiffrer à travers eux sa propre vie, c'est la démarche du cinéphile Noël Herp qui a publié aux éditions Aléa un excellent journal d'un cinéphile. Bonjour Noël Herp.
Bonjour.
Votre livre est composé de deux grandes parties. On a premièrement ce que vous appelez le journal d'un cinéphile à proprement parler, où vous employez un ton personnel, où on a l'impression que ce sont des fragments d'un journal intime, où vous décrivez des moments de votre vie. Et une seconde partie qui s'appelle le cinéma au fil des journaux, où on trouve des articles et des billets parus dans divers journaux et revues de cinéma. Alors on reviendra sans doute sur le lien entre ces deux parties au cours de cet entretien, mais la première partie est celle avec laquelle j'aimerais qu'on commence, puisque c'est la plus originale. Car lorsqu'on lit ces mots qui semblent issus donc d'un journal intime, vous décrivez des moments, des pensées qui sont personnelles. On a l'impression que vous regardez le monde comme on regarde un film. Et donc on a l'impression que vous reproduisez la relation entre un spectateur et un film face au monde, et donc face à votre propre vie, Noël Herp.
Oui, vous m'y faites penser en fait. Je n'avais pas forcément eu cette idée en composant ce recueil, entre cette partie en effet plus autobiographique du début, où j'essaie un peu de reconstituer mon rapport aux images et la manière dont s'est cristallisé mon amour du cinéma avant même que je ne découvre le cinéma en fait, le cinéma avant le cinéma. Puis en effet ensuite une partie plus journal intime en public, ce qu'on appellerait aujourd'hui le blog, et ensuite la partie journalisme proprement dit. Mais en effet, sur cette première partie que vous avez, sur laquelle vous insistez, il y a une dimension en effet de distance. Oui, le sentiment que le cinéma, on peut le découvrir par exemple en regardant le paysage depuis la vitre d'un train ou depuis une voiture en marche, en marchant dans la rue la nuit. On découvre comme ça des moments de cinéma, des moments magiques dont la magie tient au fait qu'ils sont évanescents, au fait qu'on voit passer une image et puis elle se dérobe à nous. Il y a une sorte de désir qui s'éveille. Et puis tout d'un coup, je crois que Proust parle un peu de ça à propos du désir qu'il a, que le narrateur a pour certaines femmes dans la rue. Il y a ces choses qu'on voit, ces maisons fugitives dont parlait Proust, et qui tout d'un coup s'évanouissent et que nous ne reverrons jamais. Et je crois que c'est ça le cinéma, c'est à la fois l'idée de l'évanescence et l'idée aussi qu'on est captif, c'est qu'on n'a pas le choix de ce qu'on va voir. Qu'on est en quelque sorte ligoté à son fauteuil, on a des images qui passent et puis on ne peut pas les attraper. Voilà. Et on ne peut pas choisir non plus, on ne peut pas les composer. Elles s'imposent à nous, elles nous envahissent comme un rêve. C'est pour ça que je fais d'ailleurs souvent un lien entre la description de la critique de cinéma, mais je ne crois pas être un critique de cinéma, Dieu merci d'ailleurs, et la chronique onirique, le fait de raconter ses rêves et de raconter les films, pour moi c'est un peu la même activité.
Oui, ça on le voit bien dans cette première partie, parce que même si vous ne vous référez jamais directement, en tout cas au tout début de cette première partie, la partie la plus biographique, la plus personnelle, vous évoquez des souvenirs d'enfance et des rêves, vous ne faites jamais directement référence au cinéma, et pourtant... vous avez choisi de faire figurer cette partie-là dans ce livre. Vous avez choisi de faire un seul livre, donc le lien est quand même évident. Donc comment, si ce n'était pas pour lier directement cette première partie à la seconde, à votre activité soit de critique de cinéma, en tout cas de cinéphile, pourquoi avoir choisi de faire figurer cette partie de journal intime dans ce livre alors ?
Parce que c'est une sorte de genèse, c'est la généalogie de ma cinéphilie. En fait, pour moi, il y a presque un ordre chronologique. Il y a d'abord, ça se constitue petit à petit, il y a d'abord les images de l'enfance, les images du rêve, les images du demi-sommeil. Puis tout d'un coup, ça se construit, il y a les images de désir. Aussi, j'avais toute une partie qui était plus érotique que j'ai trouvé trop personnelle et que finalement j'ai enlevée, mais ça existe aussi, bien sûr. Et c'est très lié à l'amour du cinéma, bien sûr. Et puis, il y a ensuite la découverte des photos de famille. Voilà, c'est très important aussi. Enfin, pour moi, quand je regardais ces photos, c'était déjà des acteurs, mes parents. Enfin, c'était une sorte de famille idéale que je me composais à travers des images qui étaient lointaines, qui étaient évanouies et qui étaient d'autant plus désirables. Et puis ensuite, il y a eu des actrices comme Gaby Morlaix, Gérard Philippe, etc., Sacha Guitry, etc., qui ont peuplé mon panthéon. Et puis petit à petit, j'ai été vers un cinéma quand même plus moderne. J'ai un peu secoué mes chaînes. Mais c'est vrai que pour moi, ça participe de la même logique, la logique de se reconstituer une sorte de mythologie intérieure.
Oui, et donc on a l'impression qu'en fait, ce n'est pas tant vous qui vous positionnez en spectateur du cinéma ou spectateur du monde, mais que vous essayez de partir du cinéma pour réfléchir sur votre propre vie. Que la relation se fait dans ce sens-là.
Oui, je le théoriserai pas forcément, mais il est certain que j'ai été cinéphile avant de connaître le cinéma. Et inversement, au fond, dans beaucoup d'événements de ma vie, j'aime des choses qui me rappellent le cinéma. En effet, je vais aimer quelqu'un, apprécier quelqu'un ou apprécier un moment parce que ça, ou effectivement une découverte, quelle qu'elle soit, parce que tout d'un coup, ça me renvoie à des films que j'ai vus ou à quelque chose qui est présent dans mon inconscient grâce au cinéma, oui. Car je crois que j'ai été quand même très marqué, peut-être particulièrement, de manière peut-être un peu névrotique, je ne sais pas. En tout cas, j'étais très fixé à cette période où j'ai découvert le cinéma sans vraiment le comprendre, c'est-à-dire où je voyais ces films qui passaient dans des émissions comme Les Dossiers de l'écran au cinéma ce soir, et j'en ne retenais que des bribes, que des fragments, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et c'est des images qui me sont restées. Et ensuite, ça a déposé en moi, et c'est vrai que quand je revois ces films, très souvent, je m'aperçois que je n'avais rien compris à l'histoire, j'avais reconstruit tout un film intérieur. D'ailleurs, très souvent, je réécrivais, quand j'étais adolescent, je réécrivais ces films, je les transcrivais d'après des enregistrements au magnétophone, je les reconstruisais, et c'est assez passionnant pour voir comment le souvenir, finalement, se dépose dans votre esprit. Enfin, lorsque vous voyez un film que vous avez vu à 15 ans et que vous le voyez 20 ans plus tard, à quel point vous l'avez fantasmé. Donc ça m'a permis, en quelque sorte, de traverser mon temps perdu Et finalement, ce sont comme des choses qu'on garde, les images. Finalement, c'est la seule chose qu'on garde du passé. C'est un film qu'on a vu, qu'on revoit 20 ans après. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui reste et qui permet de mesurer le temps écoulé.
Quelque chose qui reste, ces images évanescentes que vous décrivez et dont vous dites qu'elles sont hors langage et qu'il y a une réelle difficulté à essayer de les saisir par les mots. Et pourtant, c'est ce que vous essayez de faire en permanence, d'ailleurs dans la première partie, mais également dans la deuxième partie du livre, là où on trouve des critiques de cinéma. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est ce paradoxe-là, le constat d'une distance face au monde et le fait qu'on ne puisse pas comprendre les images que nous voyons, que nous vivons, dont nous nous souvenons, et pourtant cet effort réitéré en permanence de tenter de les décrire et d'écrire sur ces images.
Oui, vous avez
tout à fait raison. Donc, c'est un véritable travail d'écrivain, en fait.
Tout à fait raison. Il y a un paradoxe, c'est qu'effectivement, j'ai essayé d'écrire sur le cinéma, et en même temps, sans vouloir épuiser cette fascination, sans vouloir épuiser ce mystère, je crois qu'il y a une manière d'écrire sur le cinéma qui n'est pas forcément philosophique ou même de critique, qui est poétique. Et j'essaie de préserver ça aujourd'hui. D'ailleurs, le cinéma que j'aime, c'est souvent un cinéma muet ou c'est un cinéma qui se passe du langage. Je reproche beaucoup au cinéma français d'aujourd'hui d'être un peu trop discoureur. Et je crois que le cinéma a intérêt à se méfier du langage. Le langage doit approcher de l'image, il doit essayer de la cerner, de flirter amoureusement avec elle, mais pas de l'épuiser, pas de la démystifier. À mon avis, c'est pas très intéressant.
Il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur votre livre, Noël Herbe, qui est en tout cas un véritable livre d'écrivain, je trouve. Enfin, en tout cas, la première partie, je considère ça comme étant de la littérature. Ça s'appelle Journal d'un cinéphile, on trouve ça aux éditions Aléa.
Site de la FNAC.
Et sur le site de la FNAC, effectivement. Vous me disiez qu'il était peu disponible en librairie, donc on pouvait se le procurer en se rendant sur le site de la FNAC.
Il vous reste 30 secondes, Adèle, pour nous dire le sens de l'univers.
Eh bien oui, parce que je parlais d'un essai sur Merleau-Ponty, et non pas Maurice Merleau-Ponty qu'on connaît bien, mais Jacques Merleau-Ponty, son cousin, dont j'ai découvert l'existence avec ce livre, et qui est un philosophe, épistémologue et historien des sciences français, qui écrit sur l'univers. Il écrit cette phrase « L'homme a toujours pensé que le visage du monde devait l'instruire sur lui-même. Or, le visage de l'univers actuel est une véritable énigme pour l'homme moderne. Donc dans ses travaux, le philosophe tente de réfléchir sur l'univers afin de redonner une place à l'homme dans cet ensemble qu'il décrit comme étant démesuré. » Donc ce livre est de Jean-François Robredo, qui nous permet de découvrir la pensée du méconnu Jacques Merleau-Ponty et d'affirmer que si depuis Copernic l'homme n'est plus au centre du cosmos, il est toujours au cœur même de sa signification. C'est donc Le sens de l'univers, un essai sur Jacques Merleau-Ponty, c'est par Jean-François Robredo et on trouve ça au PUF.
Voilà, c'est noté, l'épistémologie et la cinéphilie proustienne, c'était l'intimité du jour ici-bas. En science comme dans la vie, c'est la nature qui imite l'art. Une émission que vous pouvez retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent téléchargements, bibliographies, écoutes en ligne des émissions du mois, etc. Suite et fin demain déjà de cette semaine sur Bachelard, la philosophe Cynthia Fleury, tombée dans Bachelard quand elle était toute petite, reviendra pour vous sur l'imaginaire bachelardien et le paradoxe mobile, constant, intimement dynamique de la rêverie. À demain donc, de 10h à 11h, 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.